Salut à tous et à toutes, merci d'être là, bienvenue à cette édition 2025 de Point de vue. Aujourd'hui, le film hommage à Jacques Duhou, l'un des pionniers du tourisme d'aventure au Québec, se pose de l'autre côté de l'Atlantique, destination Paris.
Jacques est un enseignant naturel, il a toujours envie de pousser les gens à réaliser leurs rêves, il m'a aidé à réaliser le mien.
L'économie est sur toutes les lèvres par les temps qui courent, la filière éolienne a le vent en poupe, mais au Québec, des piliers de la résistance mettent les voiles et réclament un moratoire sur le développement de l'éolien.
Il y a présentement 46 parcs éoliens qui sont en activité. Il y en a 15 autres qui sont en attente d'autorisation. Et donc, en 2029, il va y avoir 71 parcs éoliens au Québec pour à peu près 3000 éoliennes qui vont tapisser le Québec.
La Coalition de Québec contre les hausses de loyers exige un gel des loyers pour l'année en cours. La ministre de l'Habitation du Québec dit 5,9% ce sera.
On se laissera pas déplumer comme des petites poules là, sans rien faire. Là. Alors, j'ai au combat.
Février, c'est le mois de l'histoire des Noirs à Winnipeg et ailleurs au pays. À Miramichi, on souligne celui de l'histoire panafricaine.
C'est toujours très important pour célébrer toutes les cultures qui étaient présentes maintenant dans le ville de Miramichi, dans la région de Miramichi.
Et Fred, la marmotte se taille une réputation viable d'un bout à l'autre du pays. Ses prédictions sur la fin de l'hiver, enfin dévoilées au public. Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Merci d'être avec nous. Boris Chassagne au micro. Je serai avec vous pour les 30 prochaines minutes avec nos correspondants nationaux de l'Initiative de journalisme local. On lance l'émission à Québec-Ville pour vous parler d'augmentation de loyer. Une affaire qui résonne, j'en suis certain, dans le creux des oreilles de tous ceux et celles qui paient un loyer à travers le pays. Au Québec, locataires et groupes communautaires ont répondu à l'appel lancé par la coalition Québec contre les hausses de loyers et ont manifesté jeudi dernier contre l'augmentation suggérée de 5,9% consentie par le Tribunal administratif du logement du Québec, ce qu'on appelle le TAL. Une trentaine de personnes se sont rassemblées devant les bureaux de la ministre québécoise de l'Habitation pour demander un gel des loyers en 2025. Une mesure drastique mais nécessaire, estime la coalition, le temps que le gouvernement révise la méthode de calcul du TAL. Plusieurs associations de locataires et de propriétaires eux-mêmes ont ajouté leur voix à cette demande de révision au cours des derniers jours, mais la ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, s'y est toutefois opposée. Les détails avec Alice Zanetta.
C'est un droit fondamental retenu d'abord et avant tout, avant l'enjeu économique.
Face à une hausse des loyers suggérée de 5,9% du jamais vu en 30 ans par le Tribunal administratif du logement, le TAL, plusieurs locataires et groupes de défense des droits ont manifesté jeudi dans l'édifice Marie-Guyard, qui abrite les bureaux de la ministre du Logement, pour demander un gel des loyers.
On ne se laissera pas déplumer comme des petites poules là, sans rien faire. Là. Alors, j'ai au combat.
Nicole, qui est retraitée, constate que plusieurs personnes âgées sont démunies face à la hausse des loyers des dernières années. L'augmentation prévue par le TAL est un autre coup de massue.
Ah, ben, il y en a qui sont vraiment paniqués. Là, ils se tournent vers ils s'inscrivent sur les loyers à prix modique. Alors, ils s'inscrivent, puis là, ben, ils essaient, tant bien que mal, de faire face à l'augmentation de loyer.
Linda Wong, qui est étudiante à l'Université Laval, verra son loyer augmenter de 50 $. Elle affirme qu'elle devra réorganiser son budget, et elle n'est pas la seule. Linda représente des étudiants au cycle supérieur et souligne la précarité grandissante auquel ils et elles font face.
Des gens qui vivent dans la précarité, ils ont de la misère à s'alimenter, à avoir 3 repas par jour, donc avec une augmentation de loyer là, conséquent comme ça par mois, ça ne vient pas aider. Là. Nous avons un table du pain aussi à l'université, puis on a remarqué qu'il y a une augmentation de fréquentation à cette table du pain-là.
Pour Marie-Hélène, il faut absolument revoir le calcul du TAL.
Là, cette année, avec le 5,9% et plus, c'est juste inacceptable, c'est inconcevable. Ils vont mettre du monde à la rue, les gens ont la misère, en plus, avec le prix des aliments qui augmente. Là, j'ai de l'aide, OK, ça va. Mais si j'avais vraiment pas d'aide, j'étais toute seule, mère monoparentale avec ma fille, j'ai dit, ben, il y a des mois, je suis pas sûre que je serais peut-être à la rue.
Réviser le calcul du TAL, c'est d'ailleurs une revendication qui est partagée par les associations de locataires, mais aussi par les propriétaires. La ministre du Logement, France-Hélène Duranceau, s'y est déjà opposée. Pour les lucaquistes, la solution est dans la construction de nouvelles habitations.
On trouve que c'est assez dramatique comme situation.
Nicolas Villamarin-Bonilla, porte-parole de la Coalition de Québec contre les hausses de loyers, qui a organisé la manifestation de jeudi, explique que l'un des problèmes dans le calcul du TAL est qu'il s'appuie sur l'augmentation des loyers des années passées, ce qui crée une spirale inflationniste.
L'année dernière, les loyers ont considérablement augmenté, ce qui entraîne le calcul du tribunal à la hausse, puisque plus le revenu net des propriétaires augmente, bien plus cette composante va tirer vers le haut la hausse de loyer fixée par le tribunal. On permet l'indexation des profits au final. C'est ça le problème. On encourage les propriétaires à augmenter les loyers parce que l'année d'après, bien, au final, bien, ils vont pouvoir indexer leurs profits au plus haut niveau. Ce qui veut dire que cette année, oui, c'est très problématique au niveau du calcul du tribunal, mais on s'est d'autant plus l'année prochaine, puisque ça va tirer encore plus le loyer vers le haut.
Donc, et en attendant que le calcul du TAL soit revu, Nicolas Villamarin-Bonilla plaide pour un gel des loyers, pour donner un souffle aux locataires, mais aussi pour limiter les évictions pour non-paiement de loyer.
Ça, c'est une mesure qui est certes drastique, mais elle est nécessaire dans les conditions actuelles. Nous, comme comité logement, on voit très bien dans les interventions qu'on fait auprès des locataires qu'il y a une dégradation de la santé psychologique des locataires. T'sais, les interventions sont de plus en plus lourdes parce que c'est des gens qui voient plus le bout du fil. Fait comment je vais payer le mois prochain? Et ça veut dire que si on se retrouve en non-paiement de loyer au tribunal, bien, ça va aller très vite et on peut très vite se trouver à la rue.
Ta chanson? Allez-y, okay. Les filles.
On va chanter pour le micro.
OK.
Il faut geler les loyers. C'est pas une option de déménager.
À Québec, c'est un ménage sur deux qui est locataire, selon les calculs du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Les loyers des logements disponibles dans la capitale nationale ont augmenté deux fois plus vite que l'inflation ces quatre dernières années.
Continue, on finira dans la rue. Non.
Alisa Netta pour IGL à Québec.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
On reste au Québec et on descend un peu plus au sud, prendre la direction du centre du Québec, là où le collectif pan-québécois, toujours maître chez nous, réclame du gouvernement du Québec qu'on instaure un moratoire sur tout nouveau projet éolien. Avec la multiplication des projets à travers la province, des mouvements d'opposition se sont formés et joignent leurs forces pour exiger une approche concertée du développement de cette filière. Le groupe demande à ce qu'un moratoire soit instauré assorti d'un processus d'audience publique générique afin d'évaluer l'ensemble des projets qui sont dans les cartons. Robert Savard à Shawinigan au Québec.
Une coalition nationale regroupant plus d'une vingtaine d'organisations provenant des quatre coins de la province de Québec vient de voir le jour. Le but de ce regroupement est d'obtenir un moratoire sur tout projet de construction d'éoliennes sur le territoire québécois. Le collectif Toujours maître chez nous, qui s'oppose au projet de Tess Canada de construire 130 éoliennes sur le territoire des MRC de Mikinak et Deschenaux en Mauricie, fait partie de ce nouveau regroupement. Pour la porte-parole Carole Neal, il est important d'agir dès maintenant, car le tableau ne s'annonce pas nécessairement très rose d'ici 2029.
Il y avait plus d'une vingtaine de groupes citoyens qui s'est joint à notre mouvement. Et hier, on faisait le lancement de cette grande coalition. Et c'est là qu'on demandait un moratoire sur le développement éolien jusqu'aux conclusions d'un BAP générique pour qu'on puisse évaluer l'effet cumulatif. Parce que en faisant des recherches, c'est là que je me suis rendu compte que il y a présentement 46 parcs éoliens qui sont en activité. Il y en a 15 autres qui sont en attente d'autorisation. Et donc, en 2029, il va y avoir 71 parcs éoliens au Québec pour à peu près 3000 éoliennes qui vont tapisser le Québec. C'est beaucoup, là. Et tout ça sous le couvert de la transition énergétique, mais en réalité, il n'y a pas de transition énergétique parce qu'on n'élimine pas l'utilisation d'énergie fossile et l'éolien se rajoute. Et en fait, on assiste plus à un développement d'affaires qu'à une véritable transition énergétique et on s'est dit, il faut y mettre un terme.
La Coalition nationale reproche aux instances gouvernementales leur laxisme en matière de développement. Selon elle, il n'y a aucune concertation, que des décisions unilatérales.
Il n'y en a pas de concertation avec les citoyens, même au niveau municipal. Là, il n'y a pas de concertation avec les citoyens. Il n'y a pas de débat public non plus sur l'avenir des ressources énergétiques au Québec. Il n'y a aucun débat public. Alors, s'il y avait un réel débat public, et l'autre chose à laquelle il faut penser et pour laquelle on milite, c'est que la propriété de l'électricité doit demeurer publique. Ça doit quand même être une propriété publique. Et là, ce n'est pas évident, là, parce que Hydro-Québec n'est qu'un partenaire. Donc, c'est pas entièrement public. Donc, il faut que ça reste une propriété publique.
Robert Savard, IGL, Shawinigan.
Écrivez-nous. radio@fréquenceinfo.ca.
On bifurque vers les arts visuels pour vous parler maintenant du seul et unique Jacques Dehoux. Unique à tel point qu'un film hommage a été réalisé en son honneur. Jacques Dehoux, qui est l'un des pionniers du tourisme d'aventure au Québec, se pose donc de l'autre côté de l'Atlantique à Paris où la documentariste Lisandre Leduc-Boudreau, originaire des cantons de l'Est au Québec, a présenté son premier long-métrage documentaire intitulé tout simplement Jacques. Aujourd'hui, âgé de 88 ans, Jacques habite seul depuis 40 ans au pied des monts Ouap-Ishka, aussi appelés les monts Grou. Le film de la réalisatrice Leduc-Boudreau aborde les thèmes de la nature, de la vieillesse et de la liberté. Frédéric Lévesque, posté à tête à la baleine au Québec, a pu s'entretenir avec la réalisatrice Lisandre Leduc-Boudreau. Elle nous a ramené ce qui suit.
Ben, en fait, Jacques, à l'époque, c'était avec Michel Denis et d'autres personnes qui ont découvert le potentiel des monts Grou comme étant un endroit de prédilection pour les randonnées. Puis ils ont commencé à déchiffrer un peu les pistes et puis ils ont mis sur pied aussi un groupe de tourisme d'aventure où est-ce qu'ils organisaient des randonnées en traîneau à chien. Puis peu à peu, ben, c'est devenu ce qu'aujourd'hui on connaît comme les Monts Grou. Le groupe Les Amis Les Monts Grou qui sont pour beaucoup, mais qui font valoir le potentiel pour les randonnées du coin.
La documentariste connaît Jacques personnellement puisque sa mère avait fait une expédition avec lui dans les années 1980 et avait gardé contact. Il a toujours refusé de participer à des projets cinématographiques sauf dans le cadre d'un seul reportage en 1990. Lisandre Leduc-Boudreau considère que c'est son indépendance de création qui a interpellé Jacques dans son projet alors qu'elle était financée par le Conseil des arts et des lettres du Québec et du Canada.
J'avais le choix en fait créatif pour vraiment faire une œuvre à mon image et à l'image de Jacques. Puis je pense que ça, Jacques, il a beaucoup apprécié. Jacques, c'est un enseignant naturel. Tu sais, il a toujours envie de pousser les gens à réaliser leurs rêves. Puis je pense que c'est pour ça qu'il a accepté. Il m'a aidé à réaliser le mien.
Le processus de création du film de la réalisatrice s'est étalé sur une période de 7 ans, comme elle l'explique. Cela a été plutôt bénéfique.
Le fait que ça a été sur plusieurs années aussi, c'était important pour comme suivre l'évolution, parce que c'est quelque chose qui m'intriguait, c'est de voir comment on faisait pour continuer à vivre dans la marge tout en vieillissant. Fait que pour ça, il me fallait le temps. Ensuite, bon, le processus de création, c'est sûr que c'est mon premier film. Fait qu'au début, je suis partie dans l'idée que je voulais faire un court-métrage. Puis, dès mon premier tournage, quand je suis revenue, j'ai tout de suite compris que je pense que je m'embarquais dans quelque chose qui allait être beaucoup de plus grande envergure. Fait que là, j'ai remanié de fond en comble cette histoire-là avec la monteuse Léonie Tremblay-Clavette. On a aussi beaucoup travaillé à essayer de mettre les morceaux ensemble parce que vous allez voir en voyant le film, il y avait plein de petits morceaux à raccommoder tout en respectant aussi le rythme et le silence qu'on vit quand on est proche de Jacques, qu'on ressent du moins. Fait que ça a été quand même un gros travail, beaucoup de travail d'archives aussi. Je suis allée chercher plein d'articles aussi dans les journaux, des anciennes archives, des randonnées qu'il avait faites avec des traîneaux à chiens. Tout ça est dans le film. Fait que ça a été un vrai travail de documentaire.
Jacques vit seul en autonomie au pied des monts Ouap-Ishka, aussi appelé Mont Grou, depuis plus de 40 ans. Il est aujourd'hui âgé de 88 ans. Le film aborde l'équilibre entre la nature, la vieillesse et la recherche de liberté, des thématiques très parlantes pour les gens de la communauté de Tête à la baleine.
Ce que nous, on n'a pas en étant en société, c'est cette relation au temps qui est différente, en fait. C'est le fait d'être dans un endroit où est-ce qu'il peut prendre son temps pour faire les choses, pour répondre quand il y a de la visite, la manière qu'il va aussi prendre le temps avant de répondre à une question ou à interagir. C'est comme si on ralentit un peu notre rythme en étant dans cet environnement-là. Puis c'est ce que je voulais que le film nous rappelle, que de ralentir, en fait, c'est un peu la clé. Puis surtout quand on vieillit, d'accepter de ralentir, c'est aussi ça qui est important.
Dans le documentaire, on constate que le réseau qui s'est bâti autour des expéditions menées par Jacques dans les monts Wapishka est très fort. Pourtant, avec ce film, Lisandre-Leduc-Boudreau parle énormément de solitude, un équilibre que la documentariste souhaitait exprimer à l'écran.
C'est un peu la surprise que j'ai eue, hein, parce que quand j'ai commencé le film, moi, je m'attendais à faire un film sur un ermite. C'est un peu même dans le synopsis, là. Puis de fil en aiguille, j'ai réalisé que ça n'était pas du tout un, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent le voir, même parfois, c'est pas nécessairement des amis, mais ça va être des randonneurs qui passent dans le coin, qui vont croiser Jacques. Il est connu de tellement de personnes, puis je pense que c'est entre autres ce qui a fait le succès du film.
Le réseau de randonneurs et de randonneuses qui s'est formé autour de Jacques était bien présent lors de la projection du film à Paris, alors que Lisandre-Leduc-Boudreau présentait son film au Festival de films d'aventure devant une salle comble. Plusieurs spectateurs et spectatrices sont des connaissances de Jacques. Malgré ce rapprochement entre le public et le sujet du film, la manière d'aborder l'œuvre de Lisandre est différente en France par rapport au Québec, explique-t-elle.
Au Québec, on appelle ça des questions-réponses, ce qui se passe comme discussion après les films. En France, ils appellent ça des débats. Fait que souvent, j'ai l'impression que les questions sont un peu plus rigoureuses sur, je sais pas, la relation au territoire ou la relation, entre autres, aux Autochtones, parce que c'est un territoire, les Monts Wapishka, comme vous l'avez dit, c'est sur territoire Innu. Bref, c'est des questions qui sont vraiment très importante aussi, alors qu'au Québec, on est plus dans l'émotion souvent après le film, puis peut-être un peu moins dans la logique de tout ça.
La documentariste travaille actuellement sur un autre projet depuis ce printemps qui porte autour d'un autre personnage, à savoir un jeune punk, poète et mannequin atteint de paralysie cérébrale et originaire des Cantons de l'Est, la même région de laquelle vient Lisandre-Leduc-Boudreau.
On fait un film pour brasser la cage un peu, réveiller les gens pour qu'on construise un monde réellement adapté pour les personnes en situation de handicap. Ça va être un film sur un rythme complètement plus flyé, complètement différent. On a déjà le titre, fait que si jamais les gens entendaient le titre quand le film va sortir, c'est bien mon film. Ça va s'appeler « Pourquoi marcher droit dans un monde qui va tout croche ».
C'était Frédéric Lévesque à Tête à la baleine pour l'IJL.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Bon, on quitte le Québec pour prendre la direction de Winnipeg, puis ensuite de Miramichi, rejoindre d'abord Isaac Guelin et Divine Lembisa qui lancent la African Fashion Week Winnipeg. L'African Fashion Week célèbre la diversité des cultures africaines à travers la mode, la photographie et l'art. Le mois de l'histoire des Noirs est une période d'engagement et de reconnaissance des contributions de la communauté noire dans divers domaines, et c'est avec cette vision qu'Isaac Guelin et Divine Lembisa, initiateur de cette Fashion Week, lance donc l'édition 2025 de l'événement le 8 février au Centre culturel franco-manitobain de Winnipeg. Gaël Mpoyo à Winnipeg, au Manitoba.
Fondée par Isaac Guelin et Divine Lembisa, l'African Fashion Week Winnipeg met en lumière les créateurs afro-descendants, offrant une scène aux talents émergents et confirmés du monde de la mode. L'événement présente des designs authentiques, de textiles riches en histoire et des collections qui rendent interprètes les tendances contemporaines à travers le prisme africain. Isaac Guelin est l'initiateur de ce projet.
Oui, parce que nous, on voulait quelque chose qui parle de ce qu'on est, par exemple, de notre culture, de l'art africain. Et quand je dis l'africain, ça veut dire tout africain de descent, par exemple. Tu peux être caribéen, on peut être tout et tout. Donc, parce que vous êtes noir, vous êtes tous africains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on voulait, par exemple, célébrer la mode, la culture, l'art dans pour l'histoire des Noirs. Parce que cette initiative, on le fait deux fois par année, en été et aussi pour l'histoire des Noirs. le mois d'histoire des Noirs. Donc, on voulait vraiment avoir un espace pour promouvoir la culture africaine, surtout dans le monde de l'art et la mode. Surtout dans le monde de la mode, il n'y a pas en assez, il n'y a pas beaucoup, surtout à Winnipeg. Il y a beaucoup de talents qu'on a à Winnipeg, il y a beaucoup de designers qui commencent à venir, mais ils n'ont pas un endroit, une plateforme pour présenter leurs talents. Donc, nous, c'est pour ça qu'on crée cette initiative.
Alors, le 8 février, au Centre culturel franco-manitobain, à quoi peut-on s'attendre? Quels seront les temps forts de la soirée?
Ah, on attend beaucoup de choses. On attend la mode, surtout. C'est ici, c'est le point fort de la soirée. La mode, puis des défilés de mode. On attend à des performances. Il y a des artistes qui vont se performer. Mais il y a aussi, j'essaie de voir avec quelque chose qui nous a marqué, surtout quand j'étais en France, à Paris, la sapologie. Parce que les Congolais, là, j'essaie de les voir. Et si on peut mettre quelque chose de sapologie aussi. Et, parce que c'est en jeu initier des choses qui sont pas encore faites, qui sont pas encore faites à Winnipeg. Je veux dire, par exemple, sapologie, c'est grand en Europe, mais à Winnipeg, on n'a pas. Donc, du coup, on voulait. Même à Montréal, ça commence aussi. Donc, on voulait voir si on peut mettre ça aussi. Il y a de la musique, la danse, la food, la nourriture, en fait.
Pour Divine, faire partie de cette équipe l'aide à élargir ses talents de modéliste en étant à l'écoute des tendances et des innovations du secteur.
C'est une grande joie pour moi parce que ça me permet d'explorer et élargir mes plans. Parce que moi, je suis plus dans le domaine de modéliste, comme être modèle. Et ça me permet d'avoir une plateforme pour pouvoir faire des événements ou se former encore plus dans le futur par rapport au plan que nous avons au futur pour élaborer un peu sur... aussi, ce n'est pas juste pour... parce qu'avec l'histoire des Noirs, c'est pas juste... C'est la mode et puis essayer de créer une plateforme aussi pour les jeunes parce qu'à travers de cette plateforme on essaie de créer là-dessus pour essayer aussi de sensibiliser les jeunes pendant cette période, trouver comment s'organiser en allant de l'avant. Ça, c'est juste une base.
Le 8 février, les spectateurs auront l'occasion de découvrir des défilés mettant en vedette des créateurs locaux et internationaux. Mais la mode ne sera pas la seule star de la soirée. La photographie, l'art visuel et des performances artistiques enrichiront l'expérience du public. Winnipeg, Gaël Pouilloux pour IGL.
Et Vincent Lavoie, Nouveau-Brunswick, nous apprend que le drapeau panafricain a été ici devant l'hôtel de ville de Miramichi pour souligner le mois de l'histoire panafricaine. Pour la petite histoire, le drapeau panafricain ou le Black Liberation Flag a été créé en 1920 par le Jamaïcain nationaliste et activiste Marcus Garvey Jr. La cérémonie s'est tenue au parc Reine-Élisabeth à quelques pas de l'hôtel de ville. Et puis, cela va de soi, le maire de Miramichi, Adam Lorden, était présent pour souligner ce moment, comme Jenny Arlett, présidente de l'organisme Miramichi Afro Connection. Ils sont tous les deux avec Vincent Lavoie à Miramichi, au Nouveau-Brunswick.
C'est sous les flocons qu'a été hissé le drapeau panafricain à Miramichi. Le maire Adam Lorden était joint par l'organisme Miramichi Afro Connection pour hisser le drapeau au parc Reine-Élisabeth, tout près de l'hôtel de ville.
C'est toujours très important pour célébrer toutes les cultures qui étaient présentes maintenant dans la ville de Miramichi, dans la région de Miramichi. Et on connaît que dans ces jours, quand on grandit comme une communauté, on être plus et plus divers. Et la communauté panafricaine dans la région de Miramichi grandit beaucoup aussi dans les quelques dernières années. Alors, c'est toujours important pour célébrer avec toutes les cultures et aussi à le commencement de le mois de l'histoire africaine, on célèbre avec le drapeau.
Jenny Arlett, présidente de Miramichi Afro Connection, était présente.
C'était très représentatif pour nous parce que ça marque... qu'on est présent en tant qu'Africain, en tant que Noir. Et aujourd'hui, c'est plus pour marquer aussi la célébration du mois de l'histoire des Noirs, qui a commencé le 1er pour tout le mois de février. On veut montrer à la communauté qu'il y a une communauté noire qui est ici, qui est fière, qui veut célébrer la culture et qui est prêt à contribuer pour le pays, pour la province.
La communauté est d'ailleurs conviée le 22 février prochain au Carrefour Beau Soleil pour ses célébrations annuelles. Ici Vincent Lavoie pour IJL à Miramichi.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Et pour clore cette édition de Point de vue, bien, on la passe en compagnie de notre fier compagnon gaspésien, Fred Lamarmotte, qui a le week-end dernier livré son verdict. Le printemps va tarder à se montrer le bout du nez cette année. Il faudra attendre au moins 6 semaines encore. Notre joyeux rongeur est la marmotte officielle du Québec. Il a eu domicile dans la région de Val d'Espoir. Il a laissé tomber ce verdict dimanche dernier. Pour l'occasion, Fred, notre marmotte, convoque chaque année ses fidèles admirateurs venus des quatre coins de la péninsule gaspésienne. Il est aussi très en demande auprès des médias internationaux qui anticipent la nouvelle. Les organisateurs des prédictions de Fred se réjouissent de la portée nationale et internationale de cette annonce annuelle et de la visibilité offerte par le fait même à la région par Fred, qu'il déclare être la seule marmotte francophone en Amérique du Nord. Toby Germain à Gaspé, au Québec.
Eh bien, c'est officiel maintenant. Fred nous annonce que le printemps sera tardif.
Serrez pas les skidous! Sortez vos raquettes!
Plus d'une centaine de personnes se sont réunies devant l'école de permaculture de Val-d'Espoir en ce jour de la Chandeleur pour la 16e prédiction de Fred, la marmotte officielle du Québec. Le maire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé et organisateur Roberto Blondin s'implique dans l'événement depuis ses débuts. Il se dit fier du rayonnement obtenu par la seule marmotte francophone en Amérique du Nord.
Ça fait 16 ans qu'on le fait. Des fois, il fait plus chaud, des fois, il fait plus froid. Tout dépendant, mais on est fiers. On est fiers parce qu'on représente pendant 2 minutes dedans la Gaspésie à travers le Québec et le Canada. D'année en année, ça a grandi, ça a pris de la popularité, puis on a dit, ben, ça va devenir une tradition. Au bout de la 10e année, ben, on a commencé à y croire. On est la plus haut au Canada au niveau de la visibilité. Puis ça, c'est important. Ça, c'est important. Puis on est fiers de ça qu'un petit village représente la Gaspésie comme ça.
Pareillement, le maire de Percé, Daniel Leboeuf, se réjouit de l'assiduité de la communauté année après année. Il est fier des initiatives qui viennent mettre à l'avant-plan toute la richesse et le dynamisme de l'arrière-pays percéen.
Quand ils ont commencé ça, là, mettre en valeur un peu une partie de Percé qu'on connaît moins. T'sais, on connaît le Rocher Percé et puis le Mont-Saint-Anne, mais Val-d'Espoir, c'est un village avec du monde qui ont de l'initiative, de la persévérance, puis ça a permis d'attirer le regard de toute la province et du Canada.
En présence de dignitaires, Fred a hasardé que l'hiver s'étirerait encore quelques semaines. Il s'agit de la même prédiction émise par ses collègues Phil en Pennsylvanie et Shubenacadie Sam en Nouvelle-Écosse. De son côté, Wharton Willie en Ontario a exprimé sa dissidence. Il n'a pas vu son ombre et prévoit donc un printemps hâtif. Historiquement, Fred a un taux de prévision enviable alors qu'il ne s'est trompé que 4 fois en 15 ans. Pour le jour de la marmotte à Val d'Espoir, c'était Toby Germain pour une initiative de journalisme local.
Et voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon Fred, tu devras décider.
Et c'est sur ces bons mots que l'on conclut d'ailleurs cette édition de Point de vue. Merci à nos journalistes IJL, Gaël Empoyou, Vincent Lavoie, Alice Zanetta, Robert Savard, Frédéric Lévesque et Toby Germain. Merci à Julia Chénu, notre rédactrice nationale. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa et de l'initiative de journalisme local, IJL. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'être là chaque semaine. Écrivez si ça vous tente. Dites-nous ce que vous faites. D'où vous êtes, radio@fréquenceinfo.ca. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.